Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Banque avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous avons choisi une nouvelle fois de répondre à toutes vos questions sur une maladie complexe. Il s'agit de la drépanocytose. Cette maladie du sang, de l'hémoglobine précisément, fait courir aux personnes atteintes le risque de développer de multiples complications. Anémie, douleur, détresse respiratoire, accident vasculaire ou troubles osseux. Cette maladie génétique la plus fréquente au monde implique à la fois une prise en charge multiple et un accompagnement régulier, des explications adaptées pour que le patient intègre un certain nombre de bonnes habitudes, de gestes qui vont lui permettre d'apprendre à vivre avec. Ces conseils du quotidien associés à la prise d'un traitement pour précisément essayer de limiter les crises. 120 millions de personnes touchées par la drépanocytose à l'échelle de la planète et plus de 66% en Afrique. Des chiffres de l'OMS de 2022 qui reconnaît l'absence de programme de dépistage et de surveillance des nouveau-nés et cela complique la collecte de données fiables dans la région. Dépistage, prévention, médicaments, comment prendre en charge la drépanocytose, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Transfusion, hydroxyurée, vaccination, antibiothérapie, les recommandations du quotidien, éducation des patients. Vous avez la parole pour poser toutes vos questions à notre numéro WhatsApp 33 7 61 18 46 41. À votre écoute dans les studios de RFI, professeur Anoucha Habibi, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes médecin au centre de référence de la drépanocytose à l'hôpital Henri Mondor de Créteil en région parisienne, responsable aussi du diplôme universitaire syndrome drépanocytaire majeur à l'université Paris-Est Créteil. En deuxième partie d'émission, on va retrouver en ligne du Burkina Faso la docteure Gloria Bergès d'Amoaliga. Elle est médecin responsable de la prise en charge de la drépanocytose à l'hôpital protestant Chifra d'Ouagadougou. Elle est vice-présidente du centre d'initiative contre la drépano au Burkina Faso. Et puis on retrouvera la chronique du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, qui comme chaque semaine nous rappelle toute l'importance de l'activité physique pour rester en pleine forme.
Priorité santé sur RFI.
Et avant, comme promis, de donner la parole à nos auditeurs pour avoir vos conseils sur la drépanocytose, les fondamentaux. Parce que le nom de cette maladie n'est pas forcément familier à tout le monde, professeur Anoucha Habibi. La drépanocytose est une maladie génétique. Ça veut dire qu'il faut qu'au moins un des deux parents soit porteur du gène ou du trait drépanocytaire pour être atteint à son tour.
Non, il faut surtout que les deux et le gène, et qu'ils le transmettent en même temps à l'enfant pour que l'enfant soit malade.
Malade, mais je veux dire porteur du gène, la transmission de la maladie.
La transmission de la maladie, c'est génétique, donc c'est transmis des parents, l'enfant reçoit un des deux gènes, et il peut être effectivement porteur de gènes. Et on essaie de ne pas les appeler drépanocytaires. Ils sont porteurs sains parce qu'ils ne vont pas développer la maladie du moment où ils sont un seul gène.
Ça veut dire que si ni l'un ni l'autre n'est porteur du trait, là c'est bon, il n'y aura pas de drépanocytose, c'est un premier point d'établi.
Tout à fait.
Un auditeur du Mali, Issa, parce que c'est vrai que des fois quand on regarde qui a transmis, les risques de transmission, c'est pas mal compliqué. Issa explique avoir une fille drépanocytaire, donc elle est malade, de 2 ans, et 2 autres enfants qui n'ont pas la maladie. Il demande s'il y a un moyen de prévenir la transmission de la drépanocytose s'il souhaite avoir d'autres enfants avec son épouse, professeur Habibi. Imaginons cette famille aujourd'hui, il y a 3 enfants, 1 enfant drépanocytaire sur 3. Est-ce que, à coup sûr, s'ils ont comme projet d'étendre la famille, ils peuvent avoir une garantie à 100% que le bébé à naître ne sera pas drépanocytaire?
Non, absolument pas. La distribution des gènes est le hasard, et ça se fait au moment de la conception. Donc, quand vous prenez un grand nombre de personnes, une centaine de personnes, vous allez tomber sur les chiffres de 25% de risque de d'enfants malades, mais au niveau d'une famille, c'est absolument pas vrai. Vous avez des familles qui ont 3 enfants malades, les uns derrière les autres et d'autres qui n'ont aucun enfant malade alors que tous les deux avaient le gène à transmettre.
Donc on a bien compris, 25%, ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura un enfant sur 4 qui sera atteint. Ça n'a rien à voir avec les statistiques. Hein. C'est pas
les
comme ça que ça se passe.
Les statistiques, ça se fait sur des vraiment de grands nombres.
Sur le papier et pas dans la vie. Josepha Duchat nous pose sur WhatsApp une question sur la prévention et les facteurs de risque de la drépanocytose. C'est vrai qu'on va distinguer bien d'un côté deux choses. Il y a la prévention de la transmission, hein, ce dont on vient de parler. De l'autre, si la personne est malade, drépanocytaire, il va y avoir la prévention des symptômes et des complications. C'est complètement différent.
Complètement. Quand on est malade, donc, on a des anomalies des globules rouges. Ces globules rouges sont très sensibles à certaines choses, notamment le taux d'oxygène, l'hydratation, le froid, les changements de température et tout ce qui est maladie infectieuse. Donc, Quand on dans certaines circonstances qui sont liées à ces facteurs-là, donc ces globules rouges-là, ils vont se transformer, devenir rigides et moins bien circuler dans le sang. Ils collent aux parois des vaisseaux et donc l'oxygène n'arrive pas aux organes et donc il va y avoir des dommages des différents organes, notamment des douleurs osseuses terribles qui sont très intenses et sont dues à cette complication qu'on appelle crise vaso-occlusive.
Ça veut dire qu'il y a une obstruction, c'est comme s'il y avait on imagine nos vaisseaux, les petits vaisseaux, c'est comme une autoroute et il y a un embouteillage et ça fait mal.
Exactement. L'oxygène n'arrive pas au bout et donc dès qu'il y a l'oxygène qui manque, le corps va s'exprimer, il y a un danger et ça fait mal.
Comment décrire cette douleur ? Parce qu'il y a un point très important, c'est que quand notamment des jeunes ou des ados expriment cette très intense douleur, certains autour d'eux ne comprennent pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'ils en font autant ? Hein, parce qu'ils expriment vraiment, ça peut aller par des cris, ça peut aller par même des malaises, tellement c'est douloureux. Comment décrire cette douleur ? On a dans les hôpitaux, dans pas mal de centres de soins aujourd'hui, des échelles de douleur qui vont de 0 à 10. On est où sur cette échelle ?
Habituellement, les patients qui arrivent en crise aux urgences, ils ont une échelle de douleur aux alentours de 9-10. C'est des douleurs très, très intenses qu'ils comparent à des, on pourrait dire, une fracture ouverte d'os. Hein. C'est vraiment très, très douloureux, intense. Les patients les décrivent comme si on leur donnait des coups de marteau sur l'os ou comme si on les compressait comme dans un étau. Et pour pouvoir les soulager, il faut recourir aux antalgiques très fortes, les morphiniques, les opioïdes, pour pouvoir les soulager.
Ça veut dire on va directement au plus fort, hein. C'est pas du tout question de traiter cette douleur avec du paracétamol, c'est hors sujet.
Hors sujet, c'est-à-dire que les patients, ils l'ont déjà pris s'ils sont aux urgences d'un hôpital. Et d'autre part, c'est une maladie, c'est une lésion qui n'est pas visible. Mmh. Et quand une lésion n'est pas visible, ça saigne pas, vous voyez pas du sang, effectivement, il est sous-classé par l'entourage.
Donc,
on comprend pas.
Évidemment, on est drépanocytaire, on exprime une douleur. La première chose, on croit le patient. Pas question de tergiverser sur le soulagement de la douleur.
Tout à fait.
Docteur Habibi, le dépistage néonatal de la drépanocytose, il a été rendu systématique en France depuis le 1er novembre. Qu'est-ce que ça va changer ?
Ça va permettre qu'il n'y ait pas d'enfant qui n'a pas été dépisté. Il y a, je pense qu'il y a un certain nombre, même si c'est minoritaire, à ce que les enfants n'aient pas de perte de chance, d'une part, et d'autre part, de permettre à ce que les parents qui sont porteurs de gènes puissent bénéficier des conseils génétiques, que les sujets AS puissent être dépistés et qu'ils sachent qu'ils sont porteurs de gènes pour leur future vie.
Pour leur
même s'ils
ne
sont pas malades.
Hein. On a Dominique en RDC qui demande si la drépanocytose peut se manifester chez un nouveau-né.
Alors, les nouveau-nés, ils n'ont pas l'hémoglobine adulte. Mmh. Ils ont encore l'hémoglobine fœtale qu'on appelle l'hémoglobine F. Et ils le perdent au bout de 3 mois à peu près. Il y a un remplacement de cette hémoglobine fœtale par l'hémoglobine de l'adulte. Et donc, pendant cette période-là, ils sont protégés. Pendant les 2-3 premiers mois de la vie. Et à partir de là, ils peuvent effectivement avoir des signes de la maladie.
Justement, ça doit être très compliqué. On a un bébé qui pleure, on a du mal à comprendre pourquoi ce bébé pleure. Est-ce qu'il a faim ? Est-ce qu'il a sommeil ? Est-ce qu'il a mal quelque part ? Comment savoir si c'est la drépanocytose ? Les autres symptômes chez un tout petit bébé, c'est quoi ?
Alors, les symptômes chez les enfants, ça peut être un peu de fièvre, ça peut être des membres qui gonflent, des membres qui ne bougent pas, la pâleur, parce qu'ils peuvent faire effectivement des anémies. Et c'est des urgences, en fait. C'est pour ça que le dépistage permettra à ce que les parents soient formés à détecter ces signes-là et qu'ils puissent les amener auprès du médecin ou au service des urgences le plus rapidement possible.
Bien interpréter tous ces signes que donne le bébé, professeur Habibi. Des cas concrets, questions en direct, on part pour le Togo.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Une jeune auditrice en ligne avec nous, c'est vous Shalom, bonjour.
Bonjour Tata Caroline.
Alors, vous êtes âgée de 18 ans, vous êtes personnellement atteinte de drépanocytose, c'est ça?
Oui.
Et vous savez que vous avez la drépanocytose depuis quel âge?
À 9 ans.
À 9 ans, vous avez eu des symptômes en particulier?
Oui.
C'est-à-dire?
J'avais fait des crises. Et ça a commencé avec des maux de ventre.
Oui.
Après, mon pied m'a fait mal. Alors, on m'a amenée à l'hôpital. Mmh. On a fait l'analyse. On a découvert que je suis une drépanocytaire de type SS.
SS, donc vous êtes malade de la drépanocytose. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas dans votre famille, Shalom?
Oui, ma petite sœur.
Votre petite sœur, elle a développé la maladie à quel âge? Elle avait la maladie en elle, on a bien compris, puisque c'est une maladie génétique. Mais les symptômes, ils sont arrivés quand?
À 7 ans.
Et ça a été grave pour elle. En préparant l'émission avec Louise, vous avez expliqué précisément que votre sœur était décédée de la maladie. Ça s'est passé dans quelles circonstances?
Oui, à 7 ans, elle a commencé à boiter. Mmh. Elle n'arrivait pas à manger bien. Jusqu'à 7-10 ans,
oui.
Elle s'est paralysée.
Oui.
Mmh. Elle n'arrivait plus à marcher. Mmh. Alors, elle a fait une crise à 12 ans. C'est une crise qui commençait, mais je ne connais même pas les détails.
On peut bien imaginer, vous étiez toute petite à l'époque, donc on imagine que tous ces détails sur ce moment très douloureux de la vie de la famille, vous n'avez pas forcément été informée de tout, il fallait déjà faire face à ce qui se passait dans votre cœur, et j'imagine que ça a été un très très grand bouleversement pour toute la famille. Aujourd'hui, Shalom, est-ce que vous avez des crises? Dans ces cas-là, vous prenez quel traitement?
Si j'ai des crises, je prends le Clipal et les Oedel.
Oui, ça veut dire antidouleur.
Mais ça, toujours, je prends la...
C'est des antidouleurs, c'est ça?
Oui, oui.
Et au long cours, quand vous n'êtes pas en crise, vous prenez quoi comme médicament?
L'acide folique.
D'accord. Est-ce que le médecin il vous a donné des conseils pour le quotidien, pour vous protéger des crises, justement?
Oui, il m'a donné beaucoup de conseils. Mais il m'a dit d'arrêter de danser.
Oui. Pourquoi?
Alors, l'année passée, j'ai arrêté de danser. Il m'a dit que c'est à cause de la danse.
Ah.
Que je faisais beaucoup de crises.
C'est quoi comme genre de danse que vous faites, Shalom?
La danse afro.
Danse afro. Donc, vous bougez beaucoup, c'est très intense. Et le médecin vous a dit que peut-être vous y alliez un petit peu trop fort. Du coup, vous avez complètement arrêté la danse?
Oui.
Ouais. Donc, vous aviez aussi des questions sur les traitements. On a entendu, quand il y a des crises douloureuses, vous prenez des antalgiques, des antidouleurs. Au long cours, acide folique pour lutter contre l'anémie. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas à me contredire, professeur Habibi. Et vous avez des questions sur d'autres médicaments. Allez-y, Shalom.
Actuellement, je veux connaître ce que c'est l'Hydrea. Ça, j'ai beaucoup entendu parler de lui, mais je ne connais pas. C'est pas ici au Togo.
Au Togo, le médecin ne vous a pas proposé ce traitement d'Hydrea?
Non, il ne nous a pas proposé ça.
Vous êtes suivie à l'hôpital ou vous êtes suivie en dehors de l'hôpital?
Non, je suis suivie au CHU Campus du Togo.
D'accord, donc vous êtes bien suivie à l'hôpital. Professeur Anoucha Habibi, Hydrea, hydroxyurée, hein, c'est le nom au-delà de la marque de ce médicament. Traitement de la drépanocytose, de quoi s'agit-il?
Alors, l'Hydrea, c'est un traitement de fond qui a vraiment prouvé son efficacité dans la diminution du nombre de crises et toutes les complications. Et on pense maintenant qu'il a vraiment un rôle à jouer aussi dans toutes les atteintes d'organes chroniques qui va les diminuer. Donc, c'est un traitement très bon traitement. C'est le seul d'ailleurs pour le moment auquel on a accès. Donc il existe sous deux formes. On l'a historiquement utilisé sous forme de Hydreac et le seul qui a l'AMM en France, c'est le Cyclos, mais c'est la même molécule. Donc effectivement, c'est un traitement très efficace et on a tendance à mettre quasiment la plupart des patients sous ce traitement pour les protéger des complications. Après, au niveau de la disponibilité, je ne sais pas si au Togo vous avez accès à ce médicament et est-ce que quel est le prix de ce médicament sur place.
C'est vrai que c'est une vraie question. Shalom, vous dans votre entourage, vous connaissez des gens qui en prennent de l'Hydrea?
Non, juste. C'était un blanc qui est venu au Togo qui en a parlé.
D'accord, donc c'était quelqu'un qui venait d'Europe et qui a évoqué cette question. Moi, je voulais revenir à quelque chose d'important, Shalom, par rapport à ce que vous a dit le médecin, je ne vais pas le contredire, mais je voulais vous poser la question, professeur Anoucha Habibi, sur cette recommandation d'arrêter toute activité physique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet à Shalom?
Alors, on a changé, on a évolué dans notre prise en charge et on a prouvé qu'effectivement, avoir une activité physique compatible avec votre état de santé est nécessaire et bénéfique. Donc, je pense que si vous vous hydratez vraiment très bien et quand vous avez fait des efforts physiques, vous allez transpirer, il faudrait vraiment vous couvrir pour ne pas avoir cet état de froid-chaud et avoir... ne pas faire en fait des activités physiques très très intenses, mais modérées, mais de façon très régulière et plutôt bénéfique. Donc je pense que si vous faisiez peut-être des crises, c'était du fait que vous étiez peut-être pas assez hydraté ou que vous transpiriez et de ce fait vous aviez cet état de chaud-froid qui pouvait déclencher des crises. Mais nous on conseille en tout cas plutôt une activité physique d'endurance.
Modérée. Voilà. Vous imaginez, Shalom, faire, on va dire, une autre danse? Parce que c'est vrai que quand on voit les danses africaines, on y va à fond, on saute, on y va, c'est vraiment très intense, on donne tout. Peut-être une danse un petit peu plus douce qui vous correspondrait, en tout cas, à votre état de santé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pardon, j'ai pas bien écouté.
Je disais faire une danse plus douce, qui vous corresponde plus, qui puisse être plus compatible avec votre état de santé.
Ok, je préfère faire des danses douces.
Exactement. Ça vous fera du bien pour le corps, pour l'esprit, pour vous-même, ça c'est certain. On vous remercie infiniment pour votre appel. Très bonne journée à Lomé. Professeur Habibi, on va poursuivre notre échange. On prendra d'autres questions juste après Rosalia. Pienso en tu, mira sur RFI.
Me da miedo cuando sale, sonriendo pa' la calle, porque todo pueden ver. Joyalito que te sale. Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello. Y del oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y del cielo y de la luna, que tú quieras mirarlo. Está del agua que bebe, cuando te moja los labios. Pienso en tu mirada clava.
Tu mira, clava una bala en el pecho.
Priorité santé, vos questions sur la drépanocytose avec une spécialiste à votre écoute, avec la professeure Anoucha Habibi, médecin au centre de référence de drépanocytose de l'hôpital Henri Mondor à Créteil en région parisienne. Des questions d'auditeurs. Janou du Kenya voudrait savoir pourquoi la drépanocytose est associée à des infections osseuses comme l'ostéomyélite.
Chez les patients drépanocytaires, en fait, la rate ne fonctionne pas correctement. Et donc, il y a certaines infections qui vont se développer plus rapidement, notamment le pneumocoque et le méningocoque. C'est pour ça qu'ils sont vaccinés et sous antibiothérapie. Pour ce qui est des ostéomyélites, en fait, on pense que probablement, quand on a une bactériémie, un germe qui va dans le sang, il va se mettre plus facilement sur l'os drépanocytaire. Et les traitements qu'on met, ils sont probablement insuffisants en termes de dose d'antibiotiques parce que les reins les éliminent plus rapidement aussi. Mais c'est des hypothèses parce qu'en général, les infections de l'os ne doivent pas passer par la rate, donc on ne l'explique pas complètement.
On n'a pas toutes les explications. On peut aussi lutter contre des préjugés, des fausses croyances. Il y a cette question de Janou qui demande pourquoi les personnes qui souffrent de la drépano ne contractent pas le paludisme. Déjà, est-ce que c'est vrai, professeur?
Alors, c'est complètement fausse. Ouais. On perd les patients drépanocytaires quand ils retournent au pays et qu'ils pensent qu'ils sont protégés. Mmh. Donc, on leur conseille complètement.
Fausse croyance, attention.
C'est des fausses croyances complètement. Et on peut les perdre à cause de ça. Mmh. Donc, par contre, les personnes qui sont porteurs sains de la maladie, ils peuvent contracter le paludisme, mais développeront moins les formes très graves. Mmh. Et c'est comme ça qu'en fait, le gène a perduré dans le temps.
Donc attention aux associations d'idées, c'est pas parce que certaines personnes font des palus moins graves qu'ils ne sont pas protégés pour autant contre le palud. Donc faut pas faire des raccourcis qui peuvent être vraiment préjudiciables pour la santé. Question WhatsApp de Bilus de RDC qui demande quels sont les impacts de la drépanocytose sur la santé du cœur.
Alors, toute forme d'anémie chronique, parce que la drépanocytose provoque une anémie chronique. Les globules rouges, ils vivent 20 jours au lieu de 120 jours et le corps est en train de fabriquer régulièrement donc, des globules rouges. Et d'autre part, cette destruction libère des choses dans le globule rouge qui sont un petit peu délétères pour tous les organes, notamment le cœur. Donc, le cœur, il doit compenser cette anémie et donc travaille plus. Et probablement de ce fait, les patients vont développer des cardiomyopathies. Donc il y a beaucoup de patients qui ont des atteintes cardiaques à l'âge de 40 ans, 50 ans. Mm-mm. Et c'est dû à l'anémie.
Alors on va partir pour le Sénégal tout de suite.
RFI à Dakar. 92 FM.
En ligne avec nous, c'est Ousmane. Bonjour Ousmane.
Bonjour Caroline Paré. Bonjour professeur.
Bonjour. Alors, dans la famille, plusieurs personnes concernées par la drépanocytose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Qui est concerné?
Bonjour, professeur. Dans notre famille, il y a ma grande sœur qui a ses enfants qui ont eu la drépanocytose. Du coup, la fille a eu des crises de drépanocytose juste quand elle était petite. Maintenant, Après, à l'âge adulte, on a vu que les crises ont cessé. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que ces crises-là sont liées au fait, c'est-à-dire sont liées quand...
Par rapport à son âge, vous voulez dire pourquoi les crises ont disparu à l'adolescence avec la puberté?
Oui, à l'âge de la puberté, oui. Pourquoi les crises ont disparu à l'âge de la puberté, oui.
Donc, l'évolution avec le temps des symptômes chez ces jeunes filles, professeur Anoucha Habibi, est-ce que c'est quelque chose que l'on observe avec les années, des crises, des symptômes moins intenses ou pas forcément?
Alors, au cours de la vie, l'intensité de ces crises peuvent changer. Bonjour Ousmane, excusez-moi, je n'ai pas commencé par vous saluer. Les crises peuvent changer complètement au cours de la vie, au moment des épisodes de vie dans l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, au moment des complications de la vie de tous les jours, des divorces, des examens qu'on passe, il peut y avoir des périodes où on a plus de crises, plus de complications et des périodes beaucoup plus calmes. On sait que les hormones peuvent également intervenir. Il y a des jeunes filles qui ont des crises au moment des règles, par exemple. Il y a probablement une implication hormonale aussi qui favoriserait les crises. Donc, on pourrait penser que ça peut jouer effectivement un rôle. Ça peut être l'inverse. On peut être très tranquille dans l'enfance et avoir, c'est plutôt ça qu'on voit au moment de l'adolescence, quand les parents ils sont pas là à fixer les règles d'hygiène de vie. À ce moment-là, on se cherche encore un peu plus les limites et on fait plus de crises et de complications.
Donc, ça dépend des personnes. Ça veut dire que Ousmane, il y a de la drépano dans la famille. Vous vous posez des questions par rapport à vous-même, par exemple, si vous envisagez d'avoir des enfants?
Oui, si j'envisage de faire des enfants, est-ce que je pourrais, par exemple, faire un test après mariage?
J'imagine que c'est quelque chose qui se fait tout à fait au Sénégal. C'est vrai que dans certains contextes, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, c'est même systématique, hein, voire même obligatoire, le test prénuptial.
Dans certains pays, je pense que c'est prévu même avant le mariage. Donc, on déconseille les mariages dans ces pays-là, puisque les infrastructures ne sont pas là et les enfants ne sont pas pris en charge, de ne pas se marier. Mais je pense que un couple peut quand même
avoir des projets
ensemble. Effectivement, il faut quand même que vous sachiez où vous allez, quel est votre projet de couple et faire les tests.
La réponse est oui. Hein. Si vous souhaitez faire un test prénuptial, il faut se rapprocher d'un hôpital ou d'un centre de santé qui le propose avant d'engager justement ce projet de vie. On vous remercie beaucoup Ousmane pour votre appel du Cameroun, de Yaoundé. Lamine nous a adressé ce message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
Je m'appelle Lamine, j'ai 23 ans, je vis à Yaoundé. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 13 ans. C'était suite aux épreuves sportives à mon CAP. Suite de quoi, je suis tombé gravement malade après une batterie d'examen. Mon électrophorèse s'est révélé positif. À l'époque, j'ai été révélé FS. C'est quelques années plus tard qu'on m'a refait l'électrophorèse. C'est sorti SS. Dernièrement, j'ai l'impression que l'acide folique me fait plus de mal que de bien. Plus j'en prends, plus j'ai l'impression de me sentir fragile. J'ai essayé d'en parler à mon médecin. Elle m'a dit que je devais juste en prendre, que c'est juste passager, que en fait l'acide folique était fait pour me faire plus de bien. Maintenant, comme traitement, ce que je prends de l'acide folique, de l'efferragan codéine en cas de douleur exclusivement. J'ai essayé de me renseigner auprès d'elle à propos de l'hydroxyurée, vu que j'en ai entendu parler dans beaucoup de vos émissions. Elle m'a clairement dit que je n'en avais pas besoin, sans me donner plus d'explications. Ça aussi, j'aimerais savoir pourquoi je n'en ai pas besoin. Ma deuxième question, au niveau de mon pied droit, plus précisément de ma cheville, j'ai constaté un œdème et une douleur depuis quelques temps déjà. Au niveau de ma cheville, ça gonfle un peu et ça me fait un peu mal. Il y a des années de cela, j'ai fait une crise qui est un peu dégénérée. Au niveau de mon tibia, mon pied a noirci et il est devenu tout mou. J'ai subi une chirurgie à ce niveau, on m'a parlé d'une ostéonécrose, je crois. Je ne sais pas si les deux peuvent être liés. Je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit une radio, profil et face de mon pied. J'ai présenté la radio, mais le médecin m'a dit que c'était rien de grave. Elle m'a prescrit une espèce de combiné entre l'ibuprofène et le paracétamol. Je prends un le matin, un le soir, parce que c'est une boîte de 20 comprimés. Et après une boîte, j'ai rien ressenti. Je suis allé la voir, elle m'a dit de continuer juste. Et là, après une boîte et demie, je me demande vraiment si ça marche. Je ne sais pas, je suis un peu sceptique. J'aimerais avoir votre avis sur la situation.
Lamine, un patient qui a conscience que parfois on lui donne des réponses qui justement le laissent dans une forme d'impasse thérapeutique parce qu'on ne répond pas forcément à sa douleur, à ses inquiétudes, à ses interrogations. Professeur Habibi, déjà il s'interroge sur les effets d'une prise régulière d'acide folique. C'est quelque chose qui est vraiment recommandé.
Tout à fait. Les globules rouges étant d'une courte durée de vie chez les patients drépanocytaires, de 20 jours au lieu de 120 jours, donc il faut en permanence avoir des vitamines, notamment les folates, pour qu'ils puissent continuer à en fabriquer. Votre moelle osseuse a besoin de ça. Donc, et ça ne peut pas vous rendre malade. Donc,
ça peut être autre chose dans le cours de la maladie qui lui a causé des problèmes, mais ce n'est pas l'acide folique.
Tout à fait. Notamment, là, donc Lamine nous raconte cette histoire de la cheville avec des œdèmes qui apparaissent. Donc ça, ça peut être effectivement une infection de l'os. Il faut absolument faire des examens complémentaires pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'os.
Il a fait une radio. Est-ce que c'est suffisant comme imagerie? Est-ce qu'il faut aller plus loin en termes d'imagerie?
Une seule radio, en général, ça ne peut pas permettre de trancher. Il faudrait faire deux radios au moins espacées pour voir l'évolution. Et si on a accès à l'IRM ou le scanner, c'est des meilleurs examens pour détecter. Et d'autre part, des examens biologiques également, de prise de sang, pour voir est-ce qu'il y a beaucoup d'inflammation ou pas. Dans tous les cas, je vous déconseille de prendre plutôt l'ibuprofène au cas où il y a une infection, parce que ça perd. Et d'autre part, même plus de 3 jours, c'est plutôt déconseillé de prendre ce médicament sur plusieurs jours.
Donc le conseil à Lamine, c'est de retourner à l'hôpital, poser ces questions qu'il nous a posées très clairement au médecin ou à l'équipe, voir s'il y a une évolution, parce que s'il se plaint de cette douleur sur une zone qui a déjà été opérée, c'est qu'il y a très certainement quelque chose à faire de ce côté-là.
Exactement.
Il ne faut pas rester en l'état. En tout cas, merci beaucoup. On n'a pas répondu sur l'hydroxyurée. Là, c'est compliqué. Hein. Si le médecin a jugé que ce n'était pas nécessaire, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire?
Je pense qu'au long cours, l'hydroxyurée, c'est un très bon traitement et ça vous protégera. Néanmoins, il faudrait d'abord que vous régliez cette problématique de la cheville pour être sûr qu'il n'y a pas une infection sous-jacente et le traiter correctement.
Donc, s'occuper d'abord de ce pied qui est douloureux. De toute façon, on ne laisse pas un patient avec sa douleur. C'est une règle de base. Merci Lamine à distance pour ce message que vous nous aviez laissé. On a un auditeur en ligne du Niger, à Madawa. On rejoint Abdoulaye. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, vous êtes âgé de 33 ans, vous êtes porteur de la drépanocytose. Il ne s'agit pas ni du type AS, donc là on va rentrer un petit peu dans les détails, ni du type AS, ni du type SS, dont on parle depuis le début de cette émission, mais d'un type plus rare. De quoi s'agit-il?
Le type SC.
Alors, moi je me tourne tout de suite vers notre spécialiste, professeur Habibi. SC, c'est quoi?
Alors, c'est un syndrome drépanocytaire majeur, mais qui est beaucoup moins symptomatique. Donc, bonjour Abdoulaye. Les patients SC font moins de crises vaso-occlusives, mais ils sont pas très anémiques. Donc, en fait, ça nous arrive même de les saigner régulièrement pour diminuer la viscosité du sang. Et ça veut dire qu'ils ont hérité d'un gène S, drépanocytaire, et d'un autre anomalie sur le même gène, qui est le C. Et l'association des deux fait qu'ils peuvent, dans certaines circonstances, faire des complications vaso-occlusives également.
Alors, est-ce que vous, personnellement, Abdoulaye, vous êtes souvent sujet à des crises?
C'est rare, hein. Je suis sujet à des crises, mais en fonction de la période de l'année. Et en fonction des circonstances climatiques aussi. Je peux faire 1 an, 2 ans sans crise. Mais bon, des fois, j'ai aussi appris en grandissant à connaître un peu mon corps, à connaître mes limites et à savoir qu'est-ce qui peut déclencher une crise de drépanocytose à mon niveau, qu'est-ce qui peut atténuer une crise de drépanocytose.
On va dire que vous êtes un bon élève de l'éducation thérapeutique, vous prenez soin de vous. Vous vous hydratez, vous faites de l'activité physique, vous faites attention. Bref, vous avez un petit peu appris à maîtriser la maladie.
Oui, mais malgré ça, bon, il y a des fois où ça échappe.
Bah, bien sûr.
Nous sommes des humains, on peut des fois oublier certains paramètres et la maladie arrive. Par exemple, actuellement, au Niger, c'est la période de froid.
Ouais.
Donc, quand vous ne vous protégez pas, des fois, il fait entre 16 degrés et 20 degrés. Et 14, la température peut descendre jusqu'à 13 degrés.
Ouais.
Donc, si vous ne savez pas vous protéger, si vous ne faites pas attention, vous pouvez piquer une crise.
Je comprends bien. Abdoulaye, vous avez des questions particulières, on vous écoute.
Oui, j'ai une question. La question, c'est relativement à la greffe de la moelle. J'ai appris et par des canaux, bien sûr, médias, bien sûr, et plus précisément l'Internet, qu'il y avait une solution de guérir de la drépanocytose via et la greffe de la moelle osseuse.
Oui.
Je voulais savoir comment se fait cette greffe de la moelle osseuse et à quel type de personne cette greffe est-elle possible. Je veux parler ici de l'âge. Ensuite, je voudrais savoir quel est le coût et quels sont les pays et les modalités pour pouvoir avoir cette greffe.
Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire une émission entière sur ce sujet. C'est un vaste sujet. Et en même temps, quand on parle de la drépanocytose, on parle des traitements, des prises en charge. Il ne faut pas faire de promesses non plus qui dépassent les capacités, les possibilités de chacun et de chacune. C'est vrai que récemment, par exemple, il y a eu un traitement totalement novateur aux États-Unis qui coûte une véritable fortune. C'est sur une longue période qui affaiblit les patients aussi également. C'est vrai que c'est un espoir scientifique, cette recherche, c'est énorme. Mais en termes de faisabilité, de solutions concrètes, il faut dire parfois, attention, ça va peut-être être très compliqué d'y avoir accès. Et quand on entend Abdoulaye, tout ce qu'il fait pour rester en forme, il fait déjà le gros du travail. Parce que la greffe de moelle osseuse, quand elle n'est pas accessible dans un pays comme le Niger, il va falloir voyager, il va falloir payer très cher, il va falloir trouver quelqu'un de compatible. Bref, c'est extrêmement compliqué, professeur.
Tout à fait. D'abord, les patients qui ont une indication de greffe, parce que une greffe n'est pas sans complications ou sans effets secondaires. Hein. Donc, il faut vraiment que vous rentriez dans les indications pour qu'on décide d'y aller. Donc, habituellement, les patients SC ne relèvent pas de la greffe. C'est surtout les SS qui ont beaucoup de complications. Et à ce moment-là, on pense effectivement d'aller vers la greffe. La greffe est fait de plus en plus depuis ces dernières années parce que les conditionnements, la préparation qu'on fait pour la greffe est moins lourde et les résultats sont meilleurs.
Se fait de plus en plus dans les pays développés.
Exactement. Tout à fait. En Europe et aux États-Unis, ça se fait de plus en plus pour effectivement donner cette possibilité de guérison aux patients. Mais il n'est pas accessible à tout le monde non plus. Donc il faut vraiment, on a des critères et puis il faut avoir un donneur dans la famille compatible. Ce qui n'est pas facile non plus. Donc vous voyez, il y a beaucoup de limitations déjà au départ. Et après, pour ce qui est le coût, c'est aux alentours de 100 000 à 200 000 euros.
On parle en euros.
Voilà.
Abdoulaye, vous avez entendu ces informations. Qu'est-ce que vous en pensez? 100 000 euros, vous imaginez?
C'est monstrueux. J'ai entendu 100 000 euros.
Ça donne le tournis, hein, tout simplement, on va dire
ah,
ça.
Ah, ça donne le tournis. Si vous faites la conversion chez nous, nous qui utilisons le franc CFA.
Il y a trop de zéros. Il y a trop de zéros. On y arrive.
À peu près 60 et quelques millions de francs CFA.
Ouais, c'est monstrueux.
Mais si je peux rajouter quelque chose, Monsieur Abdoulaye, donc je pense que avant de penser à la greffe, vous pourriez peut-être vous rapprocher auprès de votre médecin pour faire des saignées régulièrement, et ça vous permettrait peut-être de ne pas vous trop limiter. Je vois que vous faites vraiment tout très bien, mais les patients drépanocytaires, souvent, quand ils grandissent, en fait, ils s'auto-limitent, ils font de moins en moins de choses. Donc, peut-être qu'avec des saignées réguliers, en fait, on diminue votre taux d'hémoglobine un tout petit peu, et ça permettrait que vous fassiez plus d'activités et moins de crises.
Voilà pour ces conseils. Un grand merci, Abdoulaye. Bonne journée au Niger. On part pour le Burkina.
Priorité santé. Sur RFI.
À Ouagadougou, on vous retrouve, docteur Gloria Berges Damoaliga. Bonjour.
Bonjour, professeur. Bonjour, Caroline.
Médecin de santé publique, responsable de la prise en charge de la drépano à l'hôpital protestant Chifra d'Ouaga. Vous êtes aussi vice-président de l'association Centre d'initiative contre la drépanocytose. Pour commencer, si vous le voulez bien, docteur, à votre échelle, quelles complications de la maladie est-ce que vous observez le plus fréquemment au Burkina?
Alors, merci, Caroline. Nous observons beaucoup toutes les complications parce que nous avons pratiquement toutes les formes au Burkina. Nous avons des patients homozygotes SS, les SC, les S bêta thalassémiques et souvent même les SO arabes. Il y a d'autres déclinaisons. Donc les CVO, nous faisons face aux crises vaso-occlusives fréquemment. Mais il y a aussi les complications chroniques et aussi les complications aiguës graves comme les syndromes thoraciques aigus, l'embolie pulmonaire. Et dans les complications chroniques, parce qu'au Burkina, il y a beaucoup de patients SC. Nous avons beaucoup qui ont des ostéonécroses, des rétinopathies des complications au niveau des yeux, voilà, qui sont fréquentes. Et aussi les plaies chroniques, nous faisons face à ces plaies. Et bien sûr, les infections chez les enfants, chez les plus petits.
Donc on voit, voilà, ça touche absolument l'ensemble de l'organisme. Est-ce que les patients font le lien entre les symptômes et cette maladie génétique? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle la maladie dans le langage courant?
Dans le langage courant, c'est la maladie des os qui broient.
Des eaux qui broient.
Des eaux qui broient. Voilà.
C'est parlant, ça veut dire qu'on a l'impression qu'on nous écrase l'os tellement ça fait mal.
Exactement. Et donc, quand ils grandissent et qu'ils ont moins, justement, ils maîtrisent mieux les facteurs déclenchants, et ils ont moins de crises vaso-occlusives, cependant, ils ne font pas attention à la survenue des complications chroniques. Donc, souvent, ils ne font pas le lien. Et c'est lors du suivi avec le médecin traitant que, voilà, il y a quand même une anticipation sur la survenue de cette complication-là.
Plusieurs auditeurs, depuis le début de l'émission, ont parlé de l'IDREA, l'hydroxyurée, un médicament donc efficace. Est-ce qu'il est accessible financièrement pour la plupart des patients que vous prenez en charge?
Il y a eu vraiment pendant longtemps un souci, ou du moins un problème d'accessibilité, non seulement financière, mais aussi de disponibilité.
Ouais.
Voilà. Et mais avec le plaidoyer, je pense que notre pays a pris en compte, voilà, le besoin de ces patients, surtout les patients SS, parce qu'il y a quand même un certain nombre de paramètres à maîtriser, étant donné que certains se trouvent dans des zones hyper reculées, inaccessibles aux soins. Donc il y a des paramètres à maîtriser. Cependant, nous arrivons à trouver de l'IDREA de plus en plus, et nous espérons en tout cas que dans les mois, les années à venir, voilà, il n'y aura plus de soucis d'accessibilité parce que les politiques en place, ou la politique en place, a pris en compte ce besoin de nos patients.
C'est un vrai combat, hein, l'accès aux médicaments, on le comprend bien. Vous, vous proposez une sorte de mode d'emploi, de guide de bonne conduite pour mieux vivre avec la drépano, docteur. On ne va pas citer toutes ces règles d'or, mais vous, les principales règles pour bien vivre avec, c'est quoi?
Et c'est déjà l'hyperhydratation. Nous sommes dans une région chaude, voilà. Donc l'hydratation. Et donc même dans les écoles, nous faisons le plaidoyer auprès des enseignants. Parce qu'un enfant drépanocytaire qui boit beaucoup aura besoin d'aller aux toilettes fréquemment. Mmh. Et souvent, il est incompris.
Ouais.
Donc, l'hyperhydratation, se protéger justement contre voilà, les facteurs climatiques, comme le patient disait tout à l'heure, voilà, le froid. Le froid, le vent, voilà. Éviter aussi tout ce qui est l'insolation, le soleil. Voilà, parce que la déshydratation est source de crise. Voilà, et l'alimentation équilibrée. Et là aussi, c'est un vrai combat, parce que nous sommes dans des pays où ce n'est pas facile, à faible revenu, et ce n'est souvent pas facile d'avoir une alimentation équilibrée. Cependant, nous essayons avec nos patients de déterminer, en fonction de leur revenu, un certain nombre d'aliments équilibrés qui pourront vraiment les aider.
On a bien compris, docteur, insister sur la prévention. Un grand merci à vous, très bonne journée à Ouagadougou. Le temps passe vite, professeur Anoucha Habibi. On vous remercie aussi beaucoup d'avoir répondu aussi clairement à toutes les questions des auditrices et des auditeurs. On va parler activité physique et santé juste après ce titre de CK, The Caveman, avec Addicted. Don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you. Yeah, yeah. Why, yama? Organic kitchen. Why, yama? Why don't we feature? Why slow, madama overload? Girl, why some more? Let the music take control of you. Close to me, need you close to me. Can you not need them? Give you close to me. I'm gonna take my time with your body, oh, yeah, 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 yeah. Like a surgeon, precise with your body, oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's make a movie. Don't you know?
Girl, I'm addicted to you. Oh, don't you know what you have done to me? Girl, I'm addicted to you.
Parler exercice physique et santé maintenant dans Priorité Santé et d'un exercice à la fois simple et efficace. Il s'agit du saut à la corde. Avec notre expert santé, sport, médecine sportive, c'est vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors pourquoi le saut à la corde est-il considéré comme un exercice complet?
C'est vrai que c'est une activité qu'on associe beaucoup à l'enfance, mais qui en fait est un excellent exercice quel que soit notre âge. Alors, le saut à la corde est absolument fantastique parce qu'il mobilise non seulement la coordination, bien sûr, l'adaptation cardio-respiratoire, ça fait vraiment travailler le cœur, et puis c'est une excellente façon de tonifier ses muscles et de travailler l'équilibre, l'agilité dès les premières séances. C'est donc une activité qu'on peut pratiquer presque partout. Vous avez besoin simplement d'une corde à sauter et d'une bonne paire de chaussures. Vous pouvez le faire à l'intérieur, chez vous, à l'extérieur, tout seul ou en groupe. On peut même mettre de la musique, ça c'est formidable, et ça sera extrêmement plaisant. Alors c'est vrai que la dépense énergétique du saut à la corde va varier selon plusieurs facteurs, selon son poids d'abord. Évidemment, plus on pèse lourd et plus on dépense de l'énergie. La technique de saut, le fait de faire un seul saut ou plusieurs sauts à chaque tour de corde avec une cadence rapide, évidemment, ça va accentuer les calories. On peut même danser en faisant du saut à la corde, ça c'est vraiment important lorsqu'on est habile. Et puis effectivement, l'efficacité de la gestion, l'habileté va également pouvoir diminuer les dépenses énergétiques. Quand on est très efficace au saut à la corde, on dépense moins d'énergie que quand on le fait pour la première fois.
Alors, c'est simple, mais néanmoins, ça nécessite une certaine méthode. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre ou pas?
Oui, absolument. Comme toute activité physique, c'est important de bien s'échauffer. Ça, c'est essentiel pour faire un réveil proprioceptif, évidemment pour éviter les pertes d'équilibre, les blessures. Et puis, il ne faut pas hésiter à y aller progressivement. On commence doucement quand on est débutant. On peut faire que 5 minutes de saut, par exemple, pour les premières sessions. Et puis, évidemment, on n'hésite pas à faire une consultation médicale avant de commencer si on souffre de douleurs articulaires ou si on a eu des blessures musculaires ou tendineuses. Ça, c'est vraiment important. Ou même si on est inactif depuis une longue période. Le but, c'est de s'assurer que l'activité est adaptée à notre condition physique et à notre santé. L'autre chose, c'est de pratiquer sur une surface qui est bien appropriée, pas trop dure, parce que le béton, par exemple, ça peut augmenter le risque de blessures articulaires. Donc, on va avoir un sol en bois, par exemple, ça c'est pas mal, ou un tapis de gym, et ça permet d'absorber une partie de l'impact. Voilà, tout cela pour dire que le saut à la corde, c'est une excellente manière de se remettre en forme quelle que soit notre condition physique initiale. Alors pourquoi ne pas essayer?
Et on peut chanter en même temps. Un grand merci à vous, docteur Jean-Marc Sen, et à bientôt dans Priorité Santé. Et Priorité Santé, c'est fini. Demain, une psy à votre écoute pour parler de la peur du changement, la nouveauté, une stimulation positive pour certains, mais pour d'autres, une source d'inquiétude, d'insécurité. Est-ce que certains conseils permettent d'accepter plus facilement le changement, d'apprendre à s'y adapter? On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque